une indigestion de mauvais souvenirs. Élodie avait pensé qu'une promenade à dos de kangourou serait amusante. Elle découvrit qu'il n'en était rien. Accrochée au cou de l'animal, elle fut secouée de manière affreuse et se crut à deux doigts de vomir tout ce qu'elle avait avalé depuis 10 jours. Néanmoins, les sauts prodigieux de Poco permirent aux deux fugitives de s'éloigner du château avant que les gardes ne comprennent ce qui se passait. Dès qu'ils furent hors de danger, le kangourou cessa de bondir et ses cavaliers purent enfin poser pied à terre. Élodie s'agenouilla dans l'herbe et ouvrit le sac à souvenirs. Les gâteaux s'étaient un peu mélangés sous l'effet des secousses, mais on distinguait sans mal ce qui était bon des autres. Elle les aligna sur le sol d'une main hésitante. Il y avait là des religieuses, des éclairs, des babas au rhum, des mocas et des trucs étranges qu'elle ne parvenait pas à identifier. On dirait des araignées géantes qu'on aurait trempées dans du chocolat bouillant et saupoudrées de sucre, murmura-t-elle le cœur au bord des lèvres. « Ce sont tes mauvais souvenirs, expliqua Tinky Winky, ou du moins leur représentation symbolique. Je sais qu'ils ne sont pas très appétissants, mais tu dois tout de même les manger. Sinon, ta mémoire sera pleine de trous. « Je sais, gémit l'adolescente. Pour me donner du courage, je vais commencer par les bons. « Si tu veux, soupira le lapin, mais ne t'en gaffe pas, tu n'aurais plus faim pour la suite. » Élodie s'empara d'un baba au rhum et mordit dedans en fermant les yeux. À la seconde même où la saveur de la pâtisserie envahissait sa bouche, des images colorées explosèrent dans son esprit. Elle voyait un palais, des serviteurs se pressant autour d'elle, des chambrières lui présentant de belles robes, des valets d'écurie harnachant à son intention de magnifiques poneys à crinière d'argent. « Oh » songea-t-elle, « c'est ma vie que je vois défiler. Ma vie d'avant, ma vraie vie. » À tâtons, elle saisit un deuxième gâteau. Cette fois, elle fut emportée dans un tourbillon d'images et de sensations. Elle avait l'impression qu'on projetait un film tonitruant sur les parois de son crâne. Tout lui revenait en vrac, et cette tornade d'informations lui flanquait le vertige. Elle comprit qu'elle avait mené la vie dorée mais solitaire des petites princesses. Élevée par des nurses, elle avait très peu vu ses parents hors des circonstances officielles. En définitive, elle les connaissait moins bien que les servantes qui s'occupaient d'elle avec dévouement. Elle se rappela les longues heures d'ennui passées en compagnie des précepteurs qui essayaient de lui enseigner l'histoire du pays des rêves et de la préparer à son métier de princesse. Leur bavardage soporifique lui emplissait les oreilles comme des grignotements d'insectes. Par bonheur, au milieu de tout cela, il y avait les visites de son jeune oncle Boro. Le plus sympa, le plus gentil des oncles. Un jeune homme un peu fou, terriblement gamin, pas du tout raisonnable, qui lui offrait de formidables cadeaux, la faisait rire aux larmes et l'entraînait dans des courses endiablées. Boro, oui, le gentil Boro, comme elle l'avait aimé. Il avait été son rayon de soleil dans l'univers amidonné du palais. Boro, avec son grand sourire étincelant, ses cheveux coiffés en pétards, et son uniforme bleu boutonné de travers, auquel il manquait toujours une épaulette. Boro, de son vrai nom, Boromidas. Élodie roula dans l'herbe, incapable de conserver plus longtemps son équilibre. « Ça va ?» s'inquiéta Tinky Winky. « Tu fais une drôle de tête. »« Je suis en train de revenir moi-même, » gémit Élodie. « Être princesse, c'est moins drôle que je le croyais. » « Je suis désolée d'insister, » fit le lapin, « mais il va falloir t'attaquer aux mauvais souvenirs avant d'être malade. Si tu vomis, tu redeviendras amnésique. »« D'accord, » soupira la jeune fille en saisissant l'une des araignées au chocolat. « Finissons-en. » Se préparant au pire, elle croqua une patte de la tarentule et fit une horrible grimace. Sous le chocolat, le goût était atroce. Un peu comme de la bouillie de ver de terre arrosée de pipi de chat, mais dans la version sans sucre ajouté. D'autres souvenirs déferlèrent dans son crâne avec le sifflement d'un méchant blizzard. Elle se rappela ce jour où oncle Boro l'avait emmenée faire du ski sur les nuages. Au début, tout semblait super, Puis Borot l'avait encouragé à dévaler une pente abrupte en lui lançant « T'es pas cap ». Élodie n'avait pas résisté au désir de lui prouver le contraire. Le problème, c'est que la pente nuageuse l'avait amenée droit dans une caverne. Une caverne habitée par un yéti rouge, la race réputée la plus colérique. Le singe géant s'était lancé à sa poursuite pour lui arracher la tête. Quelle peur elle avait eue! Planté sur ses skis, au sommet de la colline, Borot n'avait pas fait un geste pour lui venir en aide. Plus tard, elle lui avait dit « Tu aurais pu te précipiter à mon secours, tout de même. » Il avait répliqué nonchalamment, en étouffant un bâillement d'ennui. « Pourquoi ? » Il était sympa, Yeti. Il voulait juste jouer. C'est toi qui as paniqué. Tu es trop trouillarde, ma vieille. » Il y avait eu également ce déguisement de grenouille que Borot lui avait offert pour le Mardi Gras. C'est un costume magique, avait-il expliqué. Quand tu l'auras enfilé, tu pourras faire des bonds fabuleux comme les grenouilles. Cool, s'était exclamée Élodie en se dépêchant de revêtir le juste corps de peau verte. Borot n'avait pas menti. Dès la première détente des jambes, Élodie bondit par-dessus les arbres du parc. C'était méga génial. Au bout de 3 ou 4 bonds, elle était déjà à 6 kilomètres du palais royal, loin des gouvernantes et des précepteurs qui l'empêchaient toujours de s'amuser. C'est à ce moment-là que le déguisement se mit à rétrécir, lui comprimant horriblement la poitrine. Elle roula sur le sol, incapable de respirer, la figure déjà toute bleue. Elle serait morte étouffée si un bûcheron qui se trouvait là par hasard n'avait pas fendu le costume avec son coutelas. « C'était horrible, expliqua-t-elle à oncle Borot. J'avais l'impression qu'un boa resserrait ses anneaux sur moi. « Tu exagères sûrement, bâilla le jeune homme occupé à arranger ses cheveux devant la glace. Sans doute as-tu plongé dans une mare, et aussitôt le déguisement rétrécit sur toi. Je t'avais bien dit de ne pas le mouiller. Oui ? Non ? Je ne sais plus. Pas la peine d'en faire une histoire, puisque tu es là. » À cela s'ajoutait l'épisode du cerf-volant géant. Un magnifique cerf-volant de soie bleue, qu'on enfilait sur ses épaules comme un sac à dos grâce à des courroies. « Tu vas courir face au vent, lui ordonna Borot. La bourrasque te soulèvera dans les airs et tu planeras au milieu des nuages. Super, non ? Moi, je tiendrai la ficelle. Tu n'auras qu'à tirer 3 fois dessus quand tu auras envie de redescendre. » Les 10 premières minutes furent fantastiques. Élodie grimpa dans le ciel, telle une feuille morte aspirée par un tourbillon. Les oiseaux volaient autour d'elle. Elle n'avait qu'à tendre la main pour leur caresser les plumes. Et puis les nuages devinrent noirs, chargés d'éclairs rugissants. Effrayée, elle tira sur la ficelle pour prévenir son oncle qu'il devait la ramener à terre avant que l'orage n'éclate. Elle tira, tira en vain. Borot ne semblait pas comprendre le message. Pendant ce temps, les nuages se rapprochaient. Élodie se sentit incroyablement petite au milieu de ces montagnes de fumée noire. Dans le ventre des nuées, les éclairs grondaient comme des lions en cage. « Borot, Borot !» hurla l'adolescente accrochée au cerf-volant géant. Alors le tonnerre éclata. Un trait de feu jaillit d'un nuage, frôla l'oreille droite d'Élodie pour frapper le cadre du cerf-volant. La toile s'enflamma aussitôt. La jeune fille comprit que si elle ne sautait pas dans le vide, elle allait être brûlée vive. Au moment où elle glissait ses bras hors des lanières, elle remarqua que l'armature du cerf-volant était en cuivre. Un métal bien connu pour attirer l'électricité. On aurait voulu la foudroyer, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Elle se jeta dans le vide, les bras écartés pour ralentir sa chute. Un grand oiseau qui passait par là se plaça sous elle pour lui servir de véhicule. Et c'est cramponné à son cou qu'Élodie rejoignit la terre ferme. « Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, » lui reprocha oncle Borot. « Mais tu as fichu le feu à ton beau cerf-volant. Ce n'est pas très sympa. Il m'avait coûté les yeux de la tête. »« Il était en cuivre, » protesta Élodie. « Tu ne le savais pas ? Il n'y a rien de mieux pour attirer la foudre. »« Oh, c'est vrai, » s'étonna le jeune homme. Je vais de ce pas me plaindre à l'artisan qui me l'a vendu. J'espère qu'il me remboursera. » Élodie se prit la tête entre ses mains. « Comment ai-je pu être aussi naïve ? » gémit-elle à l'intention de Tinky Winky. « Je croyais qu'il était seulement distrait. Je ne me doutais pas qu'il essayait de me tuer. »«
Ça va ?» lui demanda le lapin. « Pas trop mal au cœur ?»«
Je résiste, » bredouilla la jeune fille. « Donne-moi une autre araignée. J'ai hâte d'en avoir fini. » Rassemblant son courage, elle engloutit un deuxième arachnide au chocolat noir. Les pattes velues croustillèrent sous ses dents comme des gaufrettes fourrées à la crème de momie. Cette fois, elle se vit demander audience à son père, le roi Miraflore IV, un bel homme à la moustache élégante, sanglé dans un uniforme constellé de médailles militaires. Il était assis à la grande salle du trône, fumant négligemment une cigarette au tabac de Volubilis. « Père, lui disait Élodie, je voudrais vous faire part du comportement étrange d'oncle Borot. Par trois fois déjà, les distractions qu'il m'a proposées ont failli me coûter la vie. Je me demande si... »«
Allons, ma chère fille, coupait aussitôt le roi. Ne bâtissez pas un roman. Boromida, c'est une tête folle. Un artiste, mais il vous adore. Soyez-en sûr. Peut-être est-ce vous qui vous montrez imprudente. Y avez-vous réfléchi ?»
Vexée de ne pas être prise au sérieux, Élodie alla rendre visite à sa mère, la reine Isobelle, mais celle-ci lui tint le même langage. «
Vous déraisonnez, ma fille, s'écria-t-elle. Borot est mon frère. De plus, c'est un vrai chou. Un garçon délicieux que toutes les jeunes filles de la cour voudraient épouser.
C'est un poète, voilà tout. Il est incapable d'exercer la moindre charge politique. Je pense le faire nommer responsable des distractions royales, mais je ne suis même pas certaine qu'il puisse exercer un emploi aussi léger. » Le roi et la reine changèrent d'avis le matin, où le gentil Boromidas, le poète distrait, l'agréable farceur au sourire étincelant, fit irruption dans leur chambre, escorté de chevaliers brandissant des épées. L'instant d'après, ils étaient chargés de chaînes, bâillonnés et jetés dans le carrosse de fer qui les conduirait à la prison secrète, où ils seraient tenus enfermés jusqu'à ce que Boromidas en décide autrement. Élodie, elle, eut tout de même le temps d'expédier une gifle à son oncle juste avant que les chevaliers lui attachent les mains dans le dos. Boromidas se frotta la joue en ricanant. Il n'avait plus rien du jeune homme rêveur qu'Élodie avait connu. Même ses dents semblaient soudain plus pointues. « Tu vas le regretter, affreuse petite dinde, » rugit-il. « Puisque tu t'es obstinée à sortir vivante de tous les pièges que je t'ai tendus, je vais t'exiler à jamais dans le monde réel. Mon magicien va te priver de tes souvenirs. De cette manière, tu ne te rappelleras plus rien. Tu vas oublier le royaume des songes. Tu mèneras une horrible et ennuyeuse existence dans ce territoire triste à pleurer qu'on nomme le réel. Ce sera ta punition. Oui, je vais te faire subir un châtiment plus terrible que la pendaison, que l'écartèlement, que la mort sur le bûcher. Tu vas devenir collégienne. »
Non, pas ça, supplia Élodie au comble de la terreur. Pitié, pas collégienne, pas...
Mais déjà, les gardes l'emmenaient comme un paquet de linge sale. Hé, lança le lapin, réveille-toi. Tu es verte. Tu es certaine de vouloir continuer ?
Non, haleta l'adolescente. Ça ira pour aujourd'hui.
Il ne faut pas abuser des bonnes choses. De toute manière, je sais maintenant où sont enfermés mes parents. Nous allons pouvoir les libérer.